Bonjour à tous, ici Yvan Tina sur Creative Disturbance et Afrique Virtuelle. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Kofi Sikalatsu depuis Dakar au Sénégal. Bonjour Kofi.
Bonjour Yvan, comment tu vas?
On demande en général aux invités
Allô
de se présenter eux-mêmes. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots?
Très bien. Alors, je m'appelle Ladzo Kofi Sika, donc je suis directeur d'un petit studio au niveau du Sénégal qui s'appelle les Studios FX, donc qui évolue depuis 4 ans déjà dans tout ce qui est consulting et communication auprès des ONG. Et j'anime aussi le chapitre de l'Association internationale des développeurs de jeux, qui s'appelle IGDA, donc International Game Developer. Voilà, IGDA, voilà pour International Game Developer Association. Donc, c'est une association à but non lucratif qui évolue dans 120 pays dans le monde pour une communauté de 8000 membres. Donc, je représente le seul chapitre de l'Afrique de l'Ouest francophone, ici au Sénégal, voilà. Donc, à part ça aussi, j'ai des activités en parallèle avec le programme d'innovation de la NASA à Dakar, donc le Space Apps Challenge. Et nous avons pour mission d'organiser chaque année au niveau du Sénégal la partie sénégalaise du plus gros hackathon au monde qui s'appelle le Space Apps Challenge, donc qui est un hackathon qui est organisé par la NASA dans le monde entier. Voilà.
Et il me semble que tu es aussi cofondateur du Game Camp.
Voilà, le Game Camp. Ah, c'est vrai, j'ai oublié de parler du Game Camp. Alors, le Game Camp, c'est une petite licence d'événements 100% africaines qui constitue en fait organiser des événements sous la base du Barcamp un peu ou bien du Startup Weekend pour ceux qui connaissent. Donc, c'est 3 jours de conférences, de hackathons et d'initiation au sport électronique en Afrique. Donc cette licence, on l'a développée il y a exactement 2 ans avec le cofondateur qui s'appelle Basseli Yorobi, qui est un membre de l'écosystème tech de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, on a propulsé cette licence-là dans 10 pays en Afrique. Donc cette licence nous permet d'avoir vraiment une bonne connaissance en fait des écosystèmes orientés jeux vidéo sur 10 pays en Afrique. Donc pour une communauté de 1000 personnes aujourd'hui à l'heure actuelle, avec en moyenne 100 utilisateurs actifs par pays. Voilà.
Ok, merci beaucoup pour ça. Je suis pas très compétent pour parler de jeux vidéo, mais comme tu sais peut-être, ici à l'Université du Texas à Dallas, au département d'art et technologie, le principal programme de recherche porte sur l'animation et les jeux vidéo. Donc, je pense que ce serait peut-être intéressant dans un podcast en anglais, entretien avec l'un des professeurs ici qui ont aussi un peu d'industrie pour parler de jeux vidéo. Et pour en revenir à notre podcast aujourd'hui, moi, j'aurais voulu qu'on s'entretienne sur ta récente participation au Paco Kessi Festival en Afrique du Sud. Et j'aimerais que tu nous dises en quoi consistait ta participation là-bas et si tu es toi-même artiste ou si tu produis des œuvres interactives et numériques.
Très bien. Très bien. Alors, c'est une bonne question. Effectivement, je reviens du festival Paco Kessi, donc qui est un festival d'innovation digitale qui a été mis en place par l'université Witwatersrand de Johannesburg. Et à l'intérieur de ce festival, nous avons d'autres événements qui sont greffés, comme le Hamas Festival. Alors le Hamas Festival, c'est un festival orienté jeux vidéo indépendants et digital média ludique. Et j'ai été invité justement dans le cadre je peux dire sous une double casquette pour mon travail sur les écosystèmes jeux vidéo en Afrique, mais aussi pour le fait aussi que je sois un artiste digital. parce qu'aujourd'hui, FX Studio, nous avons lancé, il y a pas plus de trois mois justement, nous avons lancé les premières émoticônes 100% africaines sur la messagerie Line, qui est une messagerie qui fait partie du top 50 MIT des entreprises les plus innovantes au monde. Et c'est par rapport à cette production que j'étais invité à faire un talk qui parle justement des émoticônes et de la diversité culturelle en Afrique. Voilà.
Et quand tu parles d'émoticônes, je suis pas très informé sur le sujet, mais en quoi ça relève de la créativité et de l'art numérique en général? Est-ce que tu peux nous informer là-dessus?
Alors très bien. Alors parce que ouais, c'est une très bonne question. Alors les émoticônes aujourd'hui constituent en fait un système de communication, une tendance qui est utilisée par tous les utilisateurs de smartphones en général dans les messageries. Et on se pose la question de savoir comment ce type de communication impacte la communication digitale en général. Et quand vous prenez aujourd'hui, par exemple, des messageries comme Line, on se rend compte qu'aujourd'hui, les stickers ou les émoticônes ont la capacité d'être monétisés. Donc, dans certains pays, les gens achètent des émoticônes pour pouvoir se démarquer en termes de langage multimédia. Donc, ça devient une forme d'expression pour les artistes. Donc, vous avez aujourd'hui des artistes qui deviennent des designers d'émoticônes. Et à l'heure actuelle, en Afrique, le mouvement est presque inexistant. À part FX Studio et peut-être la société Ojou en Afrique du Sud, nous sommes les seuls rares designers d'émoticônes africaines. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est un mouvement qui est très très récent. C'est une forme d'art aussi digital, parce qu'aujourd'hui, concevoir un set d'émoticônes, c'est concevoir un système de communication digitale approprié aux réalités de l'Afrique. Et quand on analyse la place de la diversité culturelle africaine noire, 100% black, est presque inexistante. Donc voilà un peu la thématique et l'opportunité justement que j'ai eue de présenter ce travail-là au niveau du Festival d'innovation digitale Fakugesi en Afrique du Sud à Johannesburg.
Ok, je crois qu'on a un petit souci de connexion parce que parfois je t'entends avec un peu de retard, avec des difformités dans le rendu, mais
okay.
Juste pour poursuivre sur l'histoire des émoticônes, est-ce que tu es au courant, c'est pas au courant l'expression, mais est-ce que tu as en tête des noms d'artistes qui travaillent, qui écrivent des romans, par exemple, avec des émoticônes, qui font des œuvres d'art qui font uniquement usage de ça, comme ça peut l'être au Japon, par exemple?
Ben au Japon c'est une mode qui est très prisée et ça va même au-delà des artistes parce que les grosses corporations médias s'y mettent, les grosses productions de dessins animés s'y mettent. Aujourd'hui quand vous prenez le store par exemple de Line, vous avez plus de 30 000 émoticônes différentes, de 7 d'émoticônes différents qui ont été créés. Donc, vous dire aujourd'hui des noms comme ça, il y en a tellement, et même Walt Disney ou bien la Toei Animation, qui est un studio d'animation très réputé au Japon, ou bien les studios Ghibli qui ont été lancés par Hayao Miyazaki, aujourd'hui produisent des émoticônes. Donc aujourd'hui, même Hayao Miyazaki a des émoticônes sur les messageries au Japon. Et ce sont des artistes aujourd'hui qui ont une grosse renommée en termes de production artistique pour les œuvres d'art ou les films ou les dessins animés qu'ils produisent. Donc c'est un style qui est très très connu au Japon. Parce que tout simplement.
Le Japon... Alors,
Ce qui est de l'Afrique, ben, on en a très peu. Aujourd'hui, en Afrique, on ne connaît que deux auteurs réels qui ont produit des émoticônes. Et ben, vous avez FX Studio au Sénégal et vous avez Audio Africa en Afrique du Sud. Donc, sur une population de presque 1 milliard de personnes, on n'a qu'à l'heure actuelle que deux artistes réellement qui ont compris ce mouvement-là et qui ont fait de la production.
Ok, je suis pas assez compétent pour parler de l'esthétique des émoticônes, mais qu'est-ce qui te semble intéressant dans l'émoticône à explorer comme piste de recherche?
Alors, ben ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui l'Afrique c'est 3000 cultures différentes. 3000 cultures différentes pour 2000 langages différents. Ok. Déjà, ça c'est un réservoir énorme. C'est intéressant de voir comment un phénomène mondial comme les émoticônes va être perçu, va être interprété et va être créé spécifiquement pour la cible africaine. Aujourd'hui, quand vous allez en URSS, vous allez au Japon, ils ont des émoticônes qui sont propres à leur culture, qui reflètent leur culture. Les États-Unis, pareil. Et je pense que quand on parle de diversité culturelle, quand on parle d'art, il serait intéressant de s'approprier ces cultures, c'était de se démarquer et de créer un contexte de narration par rapport à une tendance digitale qui est propre à l'Afrique. Et je pense que c'est un domaine de recherche qui est très très intéressant parce qu'aujourd'hui une émoticône permet de communiquer de manière rapidement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en utilisant une seule émoticône, on peut transcrire un sentiment, on peut transcrire une action qu'on mettrait à écrire, je sais pas, avec 10 mots ou bien 15 mots. Aujourd'hui, la technologie nous permet d'aller très vite. Effectivement, on a de moins en moins de temps pour communiquer de manière ponctuelle. Et justement, ces émoticônes-là sont en train de tout révolutionner parce que on arrive au stade où on ne va plus écrire des messages, mais on converse avec des émoticônes. Et je pense qu'il est important pour les Africains, pour l'Afrique au général, de pouvoir avoir une retranscription de nos modes de communication parce qu'ils sont totalement différents par rapport à l'Occident ou par rapport à l'Asie, aux États-Unis.
Ok, merci. Tu étais aussi artiste en résidence au Futur Lab pendant le Facultési, il me semble.
Alors non, j'étais pas artiste en résidence. J'ai plutôt rencontré Tegan Bristow, qui est la responsable du département art digital de l'université Witwatersrand, que j'ai rencontré il y a 3 ans au Sénégal quand elle est venue pour le lancement de la brochure du magazine édition Afrique Digital MCD, sachant que MCD est l'une des plus grosses revues orientées culture musicale et digitale d'Europe. Et cette revue a eu l'opportunité d'établir un numéro spécial Afrique Digitale, donc qui a recensé à peu près tous les profils qui font l'Afrique Digitale d'aujourd'hui. Et j'ai fait partie de cette brochure-là, donc on a mentionné mon profil pour le travail que je faisais sur le jeu vidéo et sur les activités de mon studio. Donc je l'ai rencontré là-bas. Et justement, la résidence qu'elle était en train d'animer était une résidence très très intéressante parce qu'il y avait 3 à 4 artistes numériques de Londres qui sont venus joindre des artistes en Afrique du Sud sur un projet de Smart City. Donc très très intéressant. Donc tu as eu Jepumba de la plateforme Afrique Digital Art qui est très très connue, qui est une designer UX. Tu as eu Lin Tang qui est un designer orienté wearable qui est venu de Londres, qui a développé justement une sorte de wearable qui permet en fait de tester le niveau d'insécurité des citoyens de Johannesburg. Donc c'était une résidence très très intéressante qui mêlait art digital, smart city et big data. Et je pense que ce type de résidence-là a vraiment une opportunité d'être répliqué dans beaucoup de villes au niveau de l'Afrique, parce que les tendances ne sont jamais les mêmes, les moyens de communication ou de connexion ne sont jamais les mêmes, et c'est important de voir comment des artistes peuvent s'approprier ce terrain de jeu digital en Afrique. Voilà.
Ok, juste pour la précision, wearable, tu parles des wearable technologies, c'est-à-dire des costumes de données qui peuvent se porter, des gants de données, ce genre de choses.
Exactement, exactement. Et le projet, justement, pour mieux l'expliquer, consistait en fait à vêtir des citoyens d'un wearable, donc une sorte de dispositif qu'ils peuvent actionner par le toucher ou bien par la pression. Et on les a envoyés en immersion dans les quartiers de Johannesburg, et ils devaient actionner ce wearable quand ils se sentaient dans une zone où ils sentaient vraiment de l'insécurité. Donc ça permet justement en fait de géocaliser quelle est la perception des citoyens par rapport à l'insécurité dans les quartiers de Johannesburg. Et on s'est rendu compte que cette perception est totalement différente des zones qui sont dans l'insécurité au niveau de Johannesburg. Donc c'est important de voir cette approche plus démocratique du citoyen par rapport à l'insécurité dans sa ville. Par le biais de wearable et par le biais justement de géolocalisation d'informations, donc de big data au niveau de la ville, et ça permet d'avoir un regard différent justement sur la perception de l'insécurité de la ville. Et je pense qu'aujourd'hui l'insécurité dans nos villes en Afrique est une problématique qui doit être prise en compte par tout projet généralement de smart city. Parce que quand on parle de ville intelligente, c'est une ville qui pense, c'est une ville qui permet de vous défendre, c'est une ville qui permet de vous protéger. Et je pense que les actions doivent être prises en compte par rapport à ce type de situation au jour le jour. Allô?
Effectivement, j'ai eu la chance, l'opportunité, je veux dire, de m'entretenir avec Tegan Bristow et Tepchumba dans un précédent podcast il y a 2 semaines pendant le festival. Et on a pu effectivement parler de ce projet de résidence et des différents artistes qu'elle y accueille. On espère que ça va nous amener vers de futures collaborations entre Afrique Virtuelle et Future Lab. Mais juste pour finir, il me semble aussi que tu es impliqué dans le développement du crowdsourcing, de l'impression 3D. Et je voudrais juste savoir pour toi quels sont les domaines émergents dans le monde de la créativité et en particulier artistique et technologique en Afrique.
Ouais, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Alors, pour ma part, quand on parle d'impression 3D, je pense que tout de suite le premier nom qui me vient à la surface, c'est le WLAB. C'est le WLAB.
Welab, c'est Kofi Séname dans un podcast africain.
Aboré avec le WLAB sur différentes activités. Ouais, c'est Namé Kofi, voilà. Exactement, exactement. Donc, moi, je suis le créateur du logotype du Fab Lab WLAB. Donc, c'est une collaboration qu'on a eu à mettre en place avec Sename Kofi il y a 2 ans. Donc, on a eu à échanger sur pas mal de projets que le WLAB a eu à produire. Donc, j'ai suivi un peu les aventures de la Wafati, qui est la première imprimante 3D africaine à base de déchets recyclés. Mais l'impression 3D est encore timide en Afrique. C'est encore une technologie timide qui a vraiment besoin de vulgarisation et d'éducation auprès des systèmes éducatifs. Nous n'avons vraiment pas beaucoup d'artistes orientés impression 3D. Donc il y a vraiment un gros travail par rapport à cela. Mais d'un autre côté, on a plus accès à tout ce qui est interactif, à tout ce qui est accès, tout ce qui est accès plutôt aux médias interactifs, parce que c'est quelque chose qui est plus répandu. Les logiciels de PAO comme Photoshop, Illustrator permettent quand même de produire des choses. Maintenant, de ce côté là aussi, on a quand même des profils qui se démarquent. Quand on analyse par exemple ici au Sénégal le travail de Victor, du photographe Victor Diop, Et on se rend compte que les meilleurs artistes orientés production digitale ont généralement une certaine polyvalence. Il faut avoir une maîtrise quand même des outils de PAO comme Photoshop, Illustrator et le reste. Ou ce sont des gens qui viennent du milieu maker, avec des notions dans le digital. Et là, on va aller vers des productions plus orientées jeu lumière, transcription, reprographie digitale. Et là, ça demande bien sûr une maîtrise du code et une maîtrise aussi de la créativité avec des logiciels de PAO. Donc pour moi, c'est encore un mouvement naissant qui commence à prendre ses marques, parce que quand on prend la référence du MCD qui a été produit, bien sûr, ça va faire bientôt 3 ans, on avait déjà une certaine image de l'Afrique digitale avec ses productions créatives. 3 ans après, il y a eu un boom. Donc je pense que c'est un travail qui va être remis d'aplomb pour voir réellement en 3 ans quelles sont les réelles évolutions qu'il y a eu. Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'un artiste digital peut vivre en Afrique? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il n'y a pas encore assez d'exposition, qu'il n'y a pas encore assez de résidences qui permettent réellement avoir des artistes, franchement, qui évoluent de manière très claire sur l'écosystème africain. Parce que la majorité, soit sont récupérés pour des exhibitions en Europe ou à l'étranger, mais rarement, rarement en Afrique. Je pense qu'il y a encore un gros travail de sensibilisation et de promotion de ce type de créativité artistique digitale.
Ok, bah écoute, je pense qu'on se rapproche de la fin du podcast, Kofi. Je renvoie les auditeurs à nos numéros
Oui.
spéciaux de la revue MCD Afrique Digitale, qui a été donc dirigée par Karen Dermineur, il me semble. Et je pense qu'ils auront l'opportunité de découvrir
Exactement.
beaucoup d'artistes à l'intérieur de ce numéro.
Exactement, exactement.
Écoute, Kofi, je serais ravi de continuer la discussion avec toi dans un autre podcast. Il faut malheureusement qu'on referme cet épisode. Donc, merci beaucoup pour ta contribution et j'espère à très bientôt.
Merci beaucoup, Yvan. Tout le plaisir était pour moi.